au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Oui, Philippe est avec nous pour nous parler de Lincoln, Philippe.
Alors, je l'ai dit en début d'émission, Daniel, quand j'étais jeune, j'étais très impressionné par la Lincoln Continental. Je suis né en 1964 et la première que j'ai connue est probablement la plus célèbre, celle avec les non moins célèbres portes suicides. C'est un modèle qui est aussi passé à l'histoire pour plusieurs raisons. On pense évidemment à la décapotable dans laquelle prenait place John F. Kennedy quand il s'est fait assassiner à Dallas, mais aussi, sur une note moins tragique, à celle utilisée par le général de Gaulle sur le chemin du roi lors de sa célèbre visite au Québec en 1967. Visite un petit peu controversée, mais bon, au moins, c'était pas dramatique. On vous a déjà raconté l'histoire de la marque Lincoln dans cette émission. Aujourd'hui, on va s'attarder à la Continental parce que c'est un modèle qui a une longue et belle histoire. Une histoire qui commence à la fin des années 30, plus précisément en 1939, parce que c'est Edsel Ford, le fils de Henry Ford, qui demande au designer en chef de la compagnie, Eugene Gregory, de lui dessiner une Lincoln spéciale pour ses vacances en Floride à partir d'un modèle déjà existant. Ça, ça fait partie des privilèges d'être le patron d'une grande...
Pourquoi pas?
D'un grand constructeur. Alors, Gregory, comme il faut qu'il fasse vite, il va prendre comme base la Lincoln Zephyr, qui est déjà une très belle voiture, et il lui apporte des modifications quand même importantes. Il va rabaisser la carrosserie et il va enlever les marchepieds, ce qui donne une ligne très épurée qui fait contraste avec les voitures américaines de l'époque. Et c'est d'ailleurs ce style d'inspiration européenne qui va donner son nom à la voiture Continental, comme continent. Et autre particularité de ce modèle, qui va devenir aussi sa signature, c'est la roue de secours qui est placée à l'extérieur du coffre, qui va ensuite être appelée Continental Tire ou Continental Kit. Et Ford va, entre autres, l'utiliser là, pour d'autres modèles à venir, comme la Thunderbird. Donc, Edsel Ford arrive en Floride avec une voiture on ne peut plus exclusive qui a été construite sur mesure pour lui. Une voiture qui est aussi belle que puissante parce qu'il y a un moteur V12 sous son long capot. Et comme il l'avait prévu, sa voiture fait un tabac parmi ses riches amis en Floride. Et Edsel Ford va se dépêcher d'envoyer un télégramme à Détroit en disant qu'il peut facilement en vendre un millier d'exemplaires. Et la production commence aussitôt, hein, pas le temps de niaiser, là. On est loin des délais d'aujourd'hui, là.
Oui, exact.
C'est ça. Alors, les Continentales sont assemblées à la main. Et la production débute tellement vite que les machines à presser la tôle ne sont pas encore prêtes. Ce qui fait que les panneaux de carrosserie des 425 premiers exemplaires sont pressés à la main avec un marteau.
Wow!
Ouais, quand même. Et la plupart des Continentales, ben, sont des cabriolets, mais il y a quelques coupés à toit rigide qui vont être produits. Même si les plus rares, le coupé est quand même passé à la postérité plusieurs années plus tard grâce au film Le Parrain. Parce que si tu t'en souviens, Daniel, c'est dans une Continental coupée que Sonny Corleone se fait poivrer. Hein?
Puis pas à peu près.
Au poste de péage, ouais, là, dans une des scènes les plus mémorables du film. Là. Alors, l'attaque japonaise contre Pearl Harbor au mois de décembre 1941 va entraîner l'arrêt de la production automobile civile aux États-Unis et le développement de nouveaux modèles va évidemment être freiné. Après la fin de la guerre, la Continental reste donc inchangée là, à quelques détails près. On a entre autres redessiné la calandre et les ailes en cours de route, mais pas plus, parce que sinon, c'est pas mal semblable. Il va y avoir une autre révision pour les modèles d'après-guerre, mais les grandes lignes restent les mêmes. Mais la carrière de la première Continental va s'arrêter une première fois en 1948. Pourquoi? Plusieurs raisons. Edsel Ford est mort 5 ans plus tôt, en 1943, il est mort jeune, ce qui a entraîné une réorganisation du bureau de direction de la compagnie. Et cette réorganisation a entraîné, à son tour, le départ du patron du design, Eugene Gregory. Alors ça, c'est la fin du premier épisode de la Continental. Et à ce jour, la Continental demeure la dernière voiture américaine à moteur V12. Mais le nom Continental, lui, va renaître 8 ans plus tard, pour l'année modèle 1956. Officiellement, ce n'est plus une Lincoln, parce que là, Continental devient une marque à part entière. C'est une nouvelle division de Ford qui se positionne en haut de Lincoln. Et cette nouvelle marque a un seul modèle, qui est la Mark II, qui revendique à l'époque le titre de voiture américaine la plus luxueuse, donc la plus chère. Parce qu'une Mark II, en 1956, ça coûte 10 000 $ Et 10 000 $ là, ça, c'est...
c'est de l'argent.
C'est 5 fois le prix d'une Ford Custom Line là, qui coûte à la même époque, un petit peu moins de 2 000 $ C'est pratiquement le prix d'une Rolls-Royce. Si on convertit en dollars d'aujourd'hui, là, c'est à peu près 90 000 $ Alors, le message est clair. On vise une clientèle triée sur le volet. Puis l'objectif va être atteint, hein, parce que les deux plus grandes vedettes américaines de la chanson, Elvis Presley et Frank Sinatra, en achètent une. Le baron de la finance, Nelson Rockefeller, va en acheter une lui aussi. Et même le Shah d'Iran, qui avait, il faut le dire, une belle collection. Hein? Quand on parle de voitures mythiques, lui, son nom revient souvent.
Oui, je comprends.
Quand on parlait de Ferrari, tu t'en souviens?
Oui.
Alors, au Salon de Los Angeles, d'où tu arrives? Moi, j'y étais il y a 3 ans et j'ai pu voir de près celle d'Elizabeth Taylor, qui lui avait été offerte par les studios Warner et dont la couleur, une espèce de bleu qui tire sur le violet, avait été créée expressément pour s'harmoniser avec ses yeux. Et les yeux d'Elizabeth Taylor, c'était quand même quelque chose, là. Et je vous cacherai pas que j'ai eu des palpitations parce qu'en plus, moi, c'est une de mes voitures préférées. Elle est dans mon top 25 personnel que j'ai publié sur mon site Internet. Faut dire que la Mark II, hein, a pas été dessinée par n'importe qui. Elle fait partie de la liste des chefs-d'œuvre d'un des grands noms du design automobile américain, Gordon Burig, qui a aussi dessiné des immortels comme la Dawsonburg Model J, l'Auburn Speedster, la fameuse Boat Tail, là, et la Cord 810. Alors, la Mark II, à l'époque, détonne dans le paysage automobile américain, là, dans les années 50, avec son design qui est d'une grande pureté, qui contraste avec l'exubérance des Cadillac, Lincoln et Imperial, parce que là, on est dans la folie des immenses ailerons arrière, là, les fameux tail fin. Et on retrouve aussi, en clin d'œil à la première Continentale, une bosse sur le coffre arrière pour loger la roue de secours. Mais cette fois, la roue est à l'intérieur du coffre plutôt qu'à l'extérieur. L'équipement de série, ben pour l'époque, il est pléthorique. Hein? La Mark II a des freins assistés, une direction assistée, ça c'est des raretés pour l'époque, des sièges et des vitres électriques. La seule option, c'est la climatisation. Le problème, c'est que Ford va perdre de l'argent sur chaque modèle vendu. Ils vont perdre à peu près 1000 $ par exemplaire, ce qui est beaucoup hein, à l'époque. Là. Et la Mark II, ben, elle est entièrement construite à la main. C'est une partie du problème. Les contrôles de qualité sont beaucoup plus rigoureux, donc plus chère, et elle ne partage aucun élément avec les autres modèles du groupe Ford. Alors, la marque Continental va durer seulement 2 ans. Et il y a un petit peu moins de 3000 exemplaires qui vont être construits, 2996 précisément. Par contre, cette fois-là, le nom Continental ne va pas disparaître. Il va rester au catalogue, mais il va être utilisé de nouveau par Lincoln à partir de 1958. Et là, après avoir essayé de jouer dans les plates-bandes de Rolls-Royce, la Continental devient plutôt la concurrente désignée des berlines de luxe américaines de GM et Chrysler, surtout là, leur haut de gamme, c'est-à-dire la Cadillac Eldorado et l'Impériale. Alors, conséquemment, son prix va diminuer de 40 % pour être ramené à environ 6 000 $ ce qui reste quand même 3 fois plus cher qu'une berline Ford générique, là. Et contrairement aux 2 autres modèles qui ont porté le nom Continental, le design de cette énorme berline est loin de faire l'unanimité. Hein. À l'interne, on la surnomme le monstre aux yeux bridés. Puis quand je dis énorme, j'exagère pas. Là. La Continental est une des plus grosses voitures jamais construites par Ford. Là, il faut dire qu'on est en pleine démesure des années 50, alors c'est de la démesure partout, entre autres pour le format des voitures. Cette fois, par contre, on a pris les moyens de rentabiliser la Continental. Alors, la 3e du nom utilise le même châssis monocoque que les autres modèles Lincoln, la Capri et la première. Et en plus, elle est construite sur la même ligne d'assemblage. Alors là, c'est fini. La construction à la main, ça coûtait trop cher.
Ben oui.
Et il faut quand même préciser qu'au sein du groupe Ford, les Lincoln sont les seuls à avoir des carrosseries monocoques. Alors, elles se distinguent quand même. Et en 1959, la 2e année de cette génération-là, va apparaître aussi un nom qui va rester étroitement associé au Continental, la Town Car. La Town Car, ben, c'est une version plus luxueuse, plus exclusive de la Continental. Et une Town Car toute équipée, ben, on revient à pas loin de 10 000 $ là, comme l'ancienne Mark II. Et ceci m'amène à vous parler de la quatrième génération qui est la plus célèbre, la plus mythique, et je pèse mes mots quand je dis ça. Et ça, ben Daniel, je vous garde ça pour le prochain bloc.
Oui, j'ai bien hâte d'entendre ça parce que moi, je veux pas voler le punch, mais je l'ai bien aimé, cette nouvelle Lincoln. Et on va dire pourquoi un petit peu plus tard. Merci Philippe.
Au plaisir.
Alors voilà, en fin de pause et au retour, promis, on vous parle. Restez là.
Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Avec Philippe Lagu qui va continuer de nous parler de Continental, Philippe.
Ben parce que là, je pense que je suis rendu au bout le plus intéressant, hein, la quatrième génération.
Ouais.
C'est vraiment celle qui va marquer les esprits, la plus célèbre, la plus emblématique. C'est celle du président canadien, bien sûr. Mais on l'a aussi vu dans beaucoup de films et des séries télé. Dans ma jeunesse, c'était la voiture du couple de la série Les Arpents Verts. T'as connu ça toi aussi.
Oui.
Mais elle est aussi en vedette dans Entourage, qui est une série quand même pas mal plus récente, là. Même chose pour le cinéma. Pensez à California ou à The Matrix, deux films cultes. Puis d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien qu'on l'a choisi encore dans des productions récentes. Parce que la Continental des années 60 avait un design avant-gardiste qui a très bien vieilli et qui en fait aujourd'hui une voiture cool, qui n'est pas juste appréciée par les vieux nostalgiques comme moi, là. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est une voiture qui est très recherchée par les amateurs de voitures modifiées. C'est un modèle qui a une signature esthétique, une très forte présence aussi. Hein. C'est une limousine d'une autre époque qui peut avoir l'air d'une voiture de gangster, mais sans avoir l'air kitsch, sans avoir l'air quétaine. Regardez la Chrysler 300 actuelle, puis vous pouvez y voir une nette influence. Hein. La ceinture de caisse haute, là, c'est pas Chrysler qui a inventé ça, ça existait bien avant les années 2000. Là. Et ce chef-d'œuvre, parce que c'en est un, on le doit à Elwood Engel, qui a ensuite quitté Ford pour devenir le patron du design chez Chrysler. Alors, je vous ramène en 1958, c'est Robert McNamara qui est le président de Ford, le même McNamara qui va ensuite se lancer en politique pour devenir le secrétaire à la défense de Kennedy et de Lyndon Johnson. McNamara, donc, demande à deux de ses designers, il les met en compétition carrément pour dessiner une remplaçante pour la Thunderbird. Il va ensuite en choisir une des deux. C'est le design de Joe Oros qui va finalement être retenu pour la Thunderbird de troisième génération, sauf que McNamara a beaucoup aimé l'autre proposition. Et il va donc demander à Engel d'ajouter deux sièges et deux portes au modèle qu'il a dessiné. Et c'est ce qui va devenir la Lincoln Continental 1961, celle de quatrième génération. Et on va aussi rajouter une version décapotable qui va être marquante pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la première décapotable à quatre portes de l'après-Seconde Guerre mondiale. Ensuite, c'est celle qui va être au centre d'un des événements les plus dramatiques de l'histoire américaine contemporaine, hein, un certain jour de novembre à Dallas. Et c'est aussi la dernière décapotable américaine à quatre portes. Il n'y en a pas eu d'autres depuis. Puis évidemment, il faut mentionner les fameuses portes suicides qui sont indissociables de ce modèle. Et très important pour d'autres aspects, peut-être un peu plus rationnels, c'est aussi la Continental qui a sauvé la marque Lincoln, hein. Lincoln qui accumulait les pertes depuis des années. Et après le fiasco et la disparition prématurée de la marque Edsel, Robert McNamara jonglait aussi avec l'idée de supprimer la marque Lincoln. Et le reste, comme on dit, ben, appartient à l'histoire. La quatrième Continental a été un succès sur toute la ligne, autant critique que commerciale, et elle a connu une longue vie, hein, 9 ans. Ce qui était exceptionnel dans l'industrie automobile américaine, ce l'est encore aujourd'hui. Et ça, ça veut dire qu'elle a traversé la très tumultueuse décennie des années 60 au complet. Il y a eu des révisions, des retouches en cours de route, mais pas de refonte majeure. Et c'était voulu ainsi. La direction de Ford voulait pas que les Lincoln aient le même cycle de remplacement que les Ford ou les Mercury. Alors, la Continental de quatrième génération, le problème, c'est qu'elle a placé la barre très haute, peut-être même trop haute, parce que la génération suivante va durer, elle aussi, une décennie complète de 1970 à 79, mais on ne peut pas dire qu'elle va laisser sa marque. Ce qu'on va surtout retenir, c'est que c'est la dernière grosse Continentale, parce qu'à la fin des années 70, Détroit vit à l'heure du downsizing, de la réduction du format de ses véhicules, et ça, ben, c'est une conséquence directe du premier choc pétrolier de 1973. Alors, la Continentale va d'ailleurs être ce qu'on pourrait appeler le dernier dinosaure, Parce que quand elle termine son cycle, en 1979, c'est la plus grosse voiture américaine en production. Pour sauver de l'argent, la Continental n'a plus de châssis ni de moteurs qui lui sont propres. Elle devient une sorte de clone de luxe des Ford LTD et Mercury Marquis, dont elle reprend d'ailleurs la plateforme et le plus gros des V8, le 460. C'est pas une voiture qui est très belle non plus, surtout à partir de 1975 avec les énormes pare-chocs là, qui étaient rendus nécessaires par les nouvelles normes américaines de sécurité. C'est tout sauf élégant. Bref, vous l'aurez compris que ce ne sont pas les années les plus glorieuses. Hein?
Non, pas du tout.
Et ça ira pas en s'améliorant, parce qu'en 1980, Ford est en plein processus de downsizing, met ses grosses berlines dans la sécheuse pour qu'elles rapetissent. Puis esthétiquement, ben, le résultat est, disons, discutable. Et surtout, ça vieillit très mal. Vous avez juste à regarder les photos sur ma page Facebook pour le constater. Là. C'est pas très glorieux. Par contre, ce processus de rapetissement a aussi des bons côtés. Les Lincoln sont moins grosses, donc plus légères, et elles consomment beaucoup moins. On parle d'une amélioration globale de 38 % pour tous les modèles de la gamme Lincoln. À partir de 1982, la Continental et la Town Car deviennent deux modèles distincts. La Continental devient la concurrente désignée de la petite Cadillac, la Civil, petite entre guillemets, là. Tandis que la Town Car se veut la grosse Lincoln, même si dans les faits, elles sont à peu près du même format. En fait, la Continental remplace, en 1982, la Versailles, qui était une Ford Granada grossièrement maquillée et qui a été à Lincoln ce que la Cimarron a été pour Cadillac, c'est-à-dire un échec retentissant. Et la Continental de 7e génération va être la dernière à avoir un moteur V8 et des roues motrices à l'arrière. Hein, parce que pour la 8e génération, Lincoln réinvente sa Continental. Faut dire qu'on est à la fin des années 80 et que les choses ne sont plus aussi simples. Parce qu'avant, la concurrence de Lincoln, ça se limitait à Cadillac et dans une moindre mesure à Imperial, mais c'était surtout une lutte à deux entre les deux rivaux de toujours, GM et Ford. Mais à la fin des années 80, les constructeurs allemands sont devenus des joueurs importants, des joueurs majeurs dans l'univers des voitures de luxe. Et à Détroit, on sait que les Japonais se préparent. Honda est déjà là avec Acura. Toyota et Nissan s'en viennent avec Lexus et Infiniti. Alors Lincoln va donc positionner sa Continental contre les voitures de luxe importées, tandis que la Town Car continue de porter le flambeau du gros char de luxe américain avec un V8. La Continental est métamorphosée. Pour la première fois, ses roues motrices sont à l'avant, son moteur est un V6, puis sa plateforme, ben, c'est celle de la Ford Taurus. Le résultat, malheureusement, est loin d'être à la hauteur des attentes, parce que sur le plan esthétique, premièrement, c'est vraiment générique. La Continental a l'air d'une Mercury Topaz allongée. Et pour le reste, ben, on est à des années-lumière des Allemandes, là, que ce soit sur le plan dynamique ou en matière de raffinement. Moi, c'est la première Continental que j'ai conduite et j'en conserve pas un souvenir impérissable, loin de là, ni d'elle, ni de sa remplaçante d'ailleurs. Parce qu'à la 9e génération, en 1995, là, Daniel, il était vraiment temps que ça finisse, là. Le design était encore plus terne que celui du modèle d'avant, ce qui était une sorte d'exploit, fallait quasiment faire exprès. Et l'écart continuait de s'élargir entre la Continental et ses concurrentes allemandes et asiatiques. Non seulement ça ne s'améliorait pas, ça se détériorait, et ça s'est terminé en 2002 là, dans l'indifférence générale. Entre-temps, la Continental a été remplacée par la Lincoln LS, qui partageait sa plateforme avec la Jaguar S-Type à l'époque où Jaguar appartenait à Ford. Et ça a été la tentative la plus sérieuse à ce jour là, pour affronter les Allemandes. Malheureusement, les acheteurs n'ont pas suivi. Il faut dire que la LS n'était pas aussi raffinée que la Jaguar non plus. Et depuis ce temps, ben, Lincoln se cherche. Et jusqu'à maintenant, n'a pas réussi à se réinventer comme Cadillac. Par contre, on l'a vu avec la MKZ, dont on a parlé à cette émission il y a quelques semaines. On est dans la bonne direction. Ce que confirme ce que vous avez vu à Détroit, toi et Marc, et ce que confirme aussi la nouvelle Continental, dont j'ai pu faire l'essai, et toi aussi, Daniel.
Bien sûr.
Alors, il a fallu attendre
Fini la voiture de service ou de valet parking ou de taxi.
Ben, écoute.
Là, on passe à autre chose.
Je vais te poser une question. Alors, il a fallu attendre 15 ans avant que la Continental revienne. Mais moi, je pense que l'attente en valait vraiment la peine. J'en ai fait l'essai l'été dernier. Puis, il faut que je le dise, là. C'est une de mes plus belles surprises cette année. Moi, j'ai tout aimé de cette voiture. Alors, ma question, Daniel, est-ce que tu partages mon enthousiasme?
Oui, j'ai été obligé. Hey, Philippe, écoute, j'ai creusé là, pour essayer de trouver un défaut à cette voiture-là.
Non, sérieux, là?
Et là, à un moment donné, il a commencé, moi je l'ai eu là, très tôt au printemps passé, il commençait à faire froid. Alors, j'ai activé les sièges chauffants et les sièges sont tellement confortables et épais que le seul défaut que j'ai réussi à trouver, c'est que ça prend du temps avant d'avoir ton siège chauffant. Ah ouais? Alors, tu vois que j'ai creusé.
C'est ça, faut être créatif, hein?
Et voilà.
Écoute, c'est une voiture qui est belle, la ligne est sobre, c'est digne de la grande époque des Continentales. C'est une voiture qui en impose aussi, qui ressemble vraiment à une berline de luxe, qui ressemble pas à une Ford déguisée. Alors ça, moi, c'est...
Ah non, ça, c'est clair.
Et qui est belle, hein, sous tous les angles. Ça aussi, faut le dire. Puis la présentation intérieure, non, mais quand même, là...
Voilà.
Hein? C'est cossu, mais c'est pas kitsch, heureusement, parce que chez Lincoln, on a déjà connu ça. C'est un environnement qui est moderne. Le système d'infodivertissement est bien conçu. Il est facile à utiliser. Il est très convivial. Et là, c'est un techno idiot qui parle. Ces sièges, tu l'as dit. Moi, écoute, je les ai trouvés fabuleux. Ce sont les sièges les plus confortables dans lesquels je me suis assis cette année. Soin apporté à l'insonorisation de son habitacle est vraiment très poussé. Mais c'est ça, ils sont longs à chauffer.
Ils sont longs à chauffer, puis prévoyez quelques minutes pour les ajustements. Parce qu'il y a tellement d'ajustements sur ton siège que pour trouver la bonne position de conduite. Tu penses que tu as la bonne position, tu joues encore avec les commandes, ou tu en trouves une encore un peu plus confortable. Donc, c'est quelque chose.
Tu connais l'expression, hein? Trop, c'est comme passer. Par contre, pour l'espace, on ne peut pas se plaindre, il y en a beaucoup. Hein? J'ai beaucoup aimé la mécanique aussi, qui est très raffinée. Le moteur V6, il y a deux moteurs, mais le plus gros moteur, le V6 biturbo de 3 litres. 400 chevaux, 400 livres de couple. C'est une voiture qui est rapide, mais qui a beaucoup de couple aussi. Et quelle souplesse, ce moteur-là. C'est vraiment un des meilleurs moteurs de l'histoire de la marque.
C'est clair qu'on va le revoir un peu partout. Il faut le réutiliser.
Oui, mais en même temps, faut conserver une certaine exclusivité à Lincoln aussi. Je veux pas ça dans une Taurus, là.
Non, on s'entend.
Bon, c'est une voiture qui peut avoir la traction intégrale aussi, donc parfaite pour notre climat. Et côté comportement, ben là, on peut dire que la Continentale est enfin arrivée au 21e siècle. Là. La tenue de route, c'est plus un concept abstrait.
Non, fini le bateau, les mots de cœur, il n'y a plus rien de ça.
Non. Excellente plateforme, très rigide. Mais bon, en même temps, si vous voulez une conduite plus affirmée, vous n'êtes pas à bonne adresse, c'est pas une Audi ou une BMW non plus. Et c'est très bien ainsi, parce que c'est pas ce qu'elle prétend être. Lincoln n'a pas fait la même erreur qu'avec les Continentales précédentes et ils ne nous l'ont pas présentée comme une mangeuse d'allemande. C'est plutôt une rivale des berlines de luxe asiatiques, mais elle est plus belle et elle est plus dynamique. Et je te dirais en conclusion que c'est le parfait compromis entre une Lexus et une voiture allemande. C'est pas une concurrente des Allemandes, mais plutôt une alternative. Et c'est de loin la meilleure Continentale que j'ai pu conduire dans ma carrière. Je dirais même la meilleure Lincoln.
Absolument. Toi aussi? Tout à fait d'accord avec toi. Et on doit continuer dans cette direction-là. On voit que cette fois-ci, on a pris les choses en main. On le fait de façon sérieuse chez Ford.
Ouais.
On voulait avoir une vraie voiture concurrente qui est agréable à conduire, qui est luxueuse, qui va plaire au marché américain comme ailleurs dans le monde, parce que du côté de Lincoln, je pense que on va prendre l'expansion. La Chine est un autre continent important.
Oui.
Alors, on veut vraiment avoir une voiture qui va bien passer partout et être pris au sérieux, parce que là, on est tanné du côté de chez Lincoln. Là, c'est pas vraiment une gamme de luxe, c'est une mi-luxe. Puis là, c'était la raison pour laquelle Ford était pas pris au sérieux avec Lincoln, c'est qu'on n'osait pas aller plus loin.
Une marque qu'on a failli abolir, d'ailleurs, ça allait mal chez Ford à la fin des années 2000.
Vas-y avec une marque de luxe, assume-toi comme tu viens de le faire dans la Lincoln ou fais-le pas.
Puis pige dans ton ADN au lieu d'essayer de te prendre pour BMW ou pour Audi, et au lieu d'essayer de te prendre pour ce que tu n'es pas et tu ne seras jamais. Et tu as dit un mot que je retiens, puis on terminera avec ça. Tu as dit le mot concurrentiel. Écoute, le prix, c'est quand même intéressant. Ça va entre 58 000 et 65 000 $. 65 000 $ pour une Continentale tout équipée. Vous avez 400 chevaux. Vous avez une voiture ultra luxueuse, ultra spacieuse, ultra silencieuse. Moi, je trouve que c'est assez bien visé.
Merci beaucoup, Philippe. Bien gentil. Alors, on fait une pause et au retour, promis, on prend vos appels.